La recherche autrement, une collection de reportages à la découverte des recherches participatives en Bretagne. Les radios associatives adhérentes à la CoreLab vous font découvrir 8 projets soutenus par la région Bretagne dans le cadre des appels à projets Recherche et Société, visant à renforcer le dialogue entre les acteurs de la recherche et la société civile et ayant pour objectif de répondre à des problématiques sociales, culturelles, économiques ou encore environnementales. Entrez dans les coulisses des recherches participatives en Bretagne et appréhendez l'innovation sociale sous toutes ses formes.
IDF, bonjour.
AP Femmes, c'est l'appropriation de la connaissance de la parole de femmes en situation de vulnérabilité et de leur pouvoir d'agir. Qui êtes-vous ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Gaëlle Sampé, je suis universitaire, donc maîtresse de conférences à l'université Rennes 2. Je développe alors des travaux dans le champ de la sociologie, et notamment de la sociologie, on va dire, appliquée au sport, mais pas que. Dans les premiers temps de ma trajectoire de chercheuse, j'ai développé des travaux plutôt sur les espaces d'enfermement. Et puis, chemin faisant, j'ai poursuivi vraiment sur une sensibilité autour des publics en situation de vulnérabilité, en développant des études. Puis, plus récemment donc, j'ai développé 2 études, alors celle-ci dont on va parler et qui nous concerne aujourd'hui. Et puis, une étude sur les jeunes placés sous main de justice, à la protection judiciaire de la jeunesse. Concernant mes activités d'enseignante, je suis vraiment spécialisée sur les questions de socialisation, de sociologie de l'éducation, de genre.
Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Antoine Éveillé, coordinateur à la Fédération régionale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles de Bretagne. L'une de mes missions principales consiste à animer et coordonner le réseau des 4 CDFF, un dans chaque département, afin qu'ils puissent porter leur mission d'intérêt général et répondre à 2 missions principales. La première, c'est de favoriser l'autonomie sociale, personnelle et professionnelle des femmes. Et puis la seconde mission, c'est de favoriser, de promouvoir l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, partout et surtout le département et la région Bretagne. Et donc la fédération régionale est aussi en lien avec notre fédération nationale qui, quant à elle, coordonne les 98 CDFF qui sont répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et territoire ultramarin également.
Le labo VIPS d'Université Rennes 2 en quelques mots.
Je vais décliner l'acronyme Valeur, Innovation, Politique, Socialisation et Sport. C'est un laboratoire qui est pluridisciplinaire, qui est spécialisé effectivement sur les études dans le champ du sport et au-delà. Donc on est vraiment spécialisé en sciences humaines et sociales. Nous sommes une vingtaine, on va dire, d'enseignants-chercheurs et un grand nombre de doctorants-doctorantes qui travaillons ensemble.
Où nous trouvons-nous actuellement ?
Là, effectivement, on se trouve au sein du CDFF d'Ille-et-Vilaine, donc à Rennes, le siège social, mais qui a aussi des permanences partout sur le département brétilien. Donc là, se trouvent des bureaux de permanence, à la fois juridiques, qui sont animés par des juristes diplômés pour l'accès aux droits et tout ce qui est relatif aussi à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et puis, ce sont aussi des bureaux pour l'accompagnement des services emploi, puis la direction et aussi les chargés d'accueil. Puis, on a aussi une salle collective qui permet d'organiser des actions collectives autour de différents sujets. Voilà, ça peut être aussi des sensibilisations et des formations sur la thématique de l'égalité et de lutte contre les violences.
La genèse du projet.
Nous, on a été sollicités par notre vice-président de l'époque, hein, qui était en charge des questions de recherche et société. À l'époque aussi, à Rennes 2, il y avait la mission univers.cité, qui essayait d'ouvrir un peu notre monde à la recherche avec, par et pour la société. À l'occasion d'une de ces réunions, nous étions présents, la FRC-IDFF et nous, le laboratoire que je représentais. Et puis tout de suite, ça a fonctionné. Déjà, sur le fond, on avait des sensibilités communes. Les actions d'un côté en faveur de l'égalité, les recherches de l'autre côté en faveur de l'égalité et puis aussi notre sensibilité partagée pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Partant de cela, on a identifié, nous, des besoins de convaincre la société dans son ensemble de la nécessité de développer des recherches qualitatives pour mesurer les effets des actions, des politiques sociales, des dispositifs. Nous, scientifiquement, c'est devenu un enjeu Et puis de l'autre côté, côté CIDFF, cette volonté de comprendre plus finement et au-delà des chiffres cette question complexe de l'autonomisation et de pouvoir valoriser des femmes qui, effectivement, sont complètement évaporées dans les chiffres. Donc de les réinscrire dans des trajectoires de vie. Et puis le dernier point, c'est qu'on se retrouvait quand même sur le projet associatif et nous, le projet scientifique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une vision globale de l'individu dans la manière dont il est pris en charge dans les CIDFF. C'est-à-dire avec cette conscience que chaque femme est singulière et qu'elle est prise dans des tas de rapports d'oppression et qu'il n'y a pas une recette, il n'y a pas des ficelles comme ça toutes faites pour favoriser son autonomisation. Puis scientifiquement, nous, une approche sociologique qui est aussi celle qui valorise la complexité et qui serait inscrite dans, on va dire, les biographies, l'analyse des socialisations et qui essaie de comprendre la complexité de l'individu par une entrée individuelle et en valorisant la pluralité de chacun, chacune en fait. Partant de ça, on a donc décidé de répondre à un appel d'offres qui est celui de la région Bretagne intitulé Recherche et Société. Et puis en quelques semaines, on a monté le projet et nous avons été lauréats.
En 2019, donc, la Fédération régionale des CIDFF a réalisé un livre blanc intitulé « Lever les freins pour favoriser l'autonomie des femmes » qui permettait de mettre en lumière certains témoignages de femmes accompagnées et informées par les différents services des CIDFF. Et puis c'était aussi de pouvoir recueillir la parole des professionnels. Et donc l'idée c'était de pouvoir mettre en lumière à la fois les freins rencontrés par les femmes en région Bretagne et puis mettre aussi en avant la parole des professionnels, les actions qu'elles réalisent auprès de ces femmes pour lever les freins quand cela est possible, le travail partenarial aussi, et souhaitant un peu réactualiser cet ouvrage et souhaitant vraiment aller au plus près davantage de la parole des femmes qui sont informées et accompagnées par les CIDFF, qui sont souvent en fait tues et cachées derrière des données quantitatives qui reflètent pas vraiment la diversité des profils des femmes accompagnées. On avait engagé un premier temps en fait d'interconnaissance avec l'université Rennes 2 qui avait permis de découvrir les différents laboratoires qui composent l'université, et notamment le laboratoire VIPS 2, et de voir justement quelles sont peut-être des pistes de collaboration possibles entre le réseau des CIDFF et puis Rennes 2. Et c'est vrai que parallèlement à cette période, le conseil régional de Bretagne avait lancé un appel à projet qui visait donc à rapprocher la société civile, le monde de la recherche universitaire. Donc on s'est saisi de cette opportunité pour proposer une recherche-action ambitieuse, structurée et structurante aussi pour nos deux réseaux respectifs, qui visait à la fois à aller au plus près de la parole de ces femmes dans différents dispositifs portés par les CIDFF et qui permettraient d'avoir une approche scientifique de ces femmes, de ce qu'elles vivent, et c'est de voir justement pour elles comment le travail de collaboration avec les professionnels également permet un changement personnel, professionnel pour ces femmes-là.
AP Femmes, c'est l'appropriation de la connaissance de la parole de femmes en situation de vulnérabilité et de leur pouvoir d'agir. Et le sous-titre du rapport qui a été déposé, Regard et portrait sociologique sur l'autonomisation des femmes par l'emploi et le droit au sein des CIDFF de Bretagne.
Les dimensions d'analyse de l'autonomisation.
Cette notion, elle est très ambivalente, parce que spontanément comme ça, on se la représente comme quelque chose de positif.
Gaëlle Sampé, enseignante-chercheuse à l'université Rennes 2.
L'autonomisation, c'est d'ailleurs très assimilé philosophiquement avec la notion d'émancipation, qui elle-même a réinscrire dans toute une tradition féministe, universaliste, qui présuppose que ces femmes-là, on va les aider à s'autonomiser, pour le dire autrement, s'émanciper, se libérer, se détacher des dépendances dans lesquelles elles sont prises, notamment grâce, historiquement, à l'indépendance économique, l'accès à un emploi. Cette histoire-là, elle s'inscrit dans toute l'histoire du féminisme. Évidemment, elle est chargée de tas de paradoxes, parce que le marché du travail, sur lequel on insère ces publics qui sont particulièrement vulnérables, en tout cas celles que nous avons rencontrées, un marché du travail qui est impitoyable et qui est très genré. Le travail n'est pas que émancipation. Ça, c'est la première ambivalence. La deuxième ambivalence, c'est que l'autonomisation, c'est en quelque sorte devenu une injonction des individus à se responsabiliser. Donc, entendez par là, à porter une responsabilité individuelle de leur choix de vie, de leur trajectoire, au même moment où, dans nos sociétés, il y a un desserrement des réseaux de solidarité, une dilution de l'aide collective, de l'État-providence. Cette injonction, alors les sociologues en parlent en termes d'injonction à l'activation biographique, c'est aussi quelque chose de très pesant, et pesant particulièrement à l'endroit des publics qui sont démunis. L'autonomisation en soi, oui, c'est un espèce d'idéal quand on en parle spontanément, mais en soi, c'est aussi une contrainte. Donc on est parti de cette complexité-là, de la notion d'autonomisation, en essayant de comprendre ce qu'elle avait de positif, finalement, de porteur, mais ce aussi dans quoi elle était prise, dans le contexte d'une société qui abandonne l'individu à son sort. Alors nous, on l'a appréhendé notamment à travers un modèle qui nous a vraiment séduit intellectuellement, qui est tout le travail d'Hermann, hein, Elisa Hermann, j'apprécie beaucoup, qui a travaillé sur les associations de femmes victimes de violences. Et donc elle voit trois dimensions qui sont importantes dans l'autonomisation, en tout cas dans le travail associatif et militant. Il y a effectivement cette dimension économique dont j'ai beaucoup parlé, mais il y a aussi la dimension administrative, elle, ce qu'elle appelle l'autonomisation administrative, c'est-à-dire la propension de l'individu, la femme ici en l'occurrence, eh bien à mener elle-même ses propres démarches. La troisième dimension d'Elisa, c'est l'autonomie, moi je vais appeler ça réflexivité, construction de soi. C'est la propension des femmes à la narration de soi, à raconter leur histoire, à dire les violences. Donc nous, on a trouvé ça intéressant, et de ces trois dimensions, on a choisi quatre thématiques d'analyse de l'autonomisation. La première, c'est le rapport au temps. Dans l'analyse, effectivement, des systèmes d'oppression des femmes, le temps, c'est crucial. Et la division du temps, le rapport aux institutions, le rapport au genre, aux hommes, et le rapport à soi et au corps. Et donc ces quatre dimensions sont des thématiques finalement qu'on a choisi d'aborder. On les a réinscrites dans une approche traditionnelle de la sociologie qui est celle des socialisations. Donc en fait, on va étudier comment le social s'est plié dans l'individu, qu'est-ce qu'elles ont intériorisé, quelles sont leurs dispositions, leurs sensibilités, leur manière de voir le monde, d'agir dans ce monde. À travers ces quatre thématiques, voilà, on a retricoté des biographies, des portraits et mis en perspective le temps passé, le temps présent, la socialisation en train de se faire pendant l'accompagnement associatif et les projections de l'individu. La question étant, comment ces femmes se transforment, j'ai envie de dire, ou au contraire, renforcent des choses finalement qui les pénalisent, qui les immobilisent.
Moi, je travaille beaucoup avec les 4 CIDFF.
Antoine Éveillé, coordinateur de la Fédération régionale des CIDFF de Bretagne, centre d'information sur les droits des femmes et des familles.
Forcément, ils étaient partie prenante lors du dépôt auprès du conseil régional et donc étaient impliqués dès la genèse dans la réflexion justement quelles actions on va cibler aussi. Et donc, il fallait privilégier des portes d'entrée. Et c'est vrai qu'on porte avec notamment le comité régional UFOLEP, qui est une association affinitaire et sportive depuis 2021, un projet qui s'intitule Toute Sport, Toute Sportive et qui vise à faire de la pratique sportive un outil de facilitation pour l'insertion socio-professionnelle des femmes qui rencontrent des difficultés multiples. Et donc le CIDFF des Côtes d'Armor était un précurseur de ce projet-là en région Bretagne lors du dépôt du projet. Au regard de l'expertise aussi du laboratoire VIPS sur les pratiques sportives, la socialisation, il a semblé adéquat et opportun de cibler sur cette action-là pour voir comment la pratique sportive en collectif, couplée à des ateliers d'insertion pro et d'estime de soi, permet à ces femmes, ou non, de favoriser leur insertion socio-professionnelle, permet de lever certaines dispositions et de travailler justement sur le rapport, comme Gaëlle le présentait, sur le rapport au temps, rapport aux institutions, aux hommes, etc. Donc là, c'est vrai que c'était ce premier dispositif qui a été ciblé. Et puis, c'est ensuite le CIDFF d'Ille-et-Vilaine qui a été aussi particulièrement mobilisé. Il met en place de nombreuses actions assez transversales autour des permanences juridiques, l'animation aussi de réseaux violences intrafamiliales. Je rappelle juste que chaque année, ce sont à peu près 200 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et puis, le CIDFF d'Ille-et-Vilaine porte des actions par le service emploi, et notamment ce qu'on appelle le bureau d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Et puis, il y a aussi des actions collectives. Et donc, c'est vrai que c'est cette approche à la fois individuelle de l'accompagnement des femmes vers leur démarche d'insertion professionnelle couplée à des démarches collectives qui ne reflètent pas une même réalité pour ces femmes-là, pouvoir mettre en lumière aussi ces différentes trajectoires selon les différents dispositifs intégrés par les CIDFF. Nous avons ciblé pour cette première recherche-action les départements donc, des Côtes d'Armor et le département d'Ille-et-Vilaine.
Les outils et la méthodologie utilisés.
Clairement, l'outil qu'on a ciblé dans un premier temps, c'est vraiment l'outil biographique. Pas pour, s'intéresser à des processus individuels. Il y a quand même plusieurs politiques scientifiques. Nous, il s'agissait d'identifier des mécanismes sociaux, de mettre en évidence des rapports d'oppression pluriels et enchevêtrés, mais de manière intersectionnelle, on va dire. C'est-à-dire, il s'agissait de comprendre les situations dans lesquelles ces femmes étaient prises, évidemment sous l'angle des rapports de genre, mais aussi des rapports de classe, les rapports d'âge dans lesquels elles sont prises, empêchées, ce qui pose la question de la parentalité, de la conjugalité, etc. Et puis évidemment, du territoire. Donc en fait, on a décidé de mettre en place des portraits sociologiques. Donc il s'agit de mettre en relation deux choses pour comprendre le comportement de l'individu. La première chose, c'est les forces internes, ce qu'il a intérieur. intériorisé, lui individuellement dans sa trajectoire de vie. D'où l'importance de l'interroger, que les femmes la racontent. Et la deuxième chose, c'est le contexte, la situation, les contraintes sociales, ce qu'on appelle les forces externes. Et à la rencontre de ces deux choses, force interne, force externe, se déploie l'action sociale, le comportement. Et c'est dans la jonction de ces deux choses-là qu'on a essayé d'interpréter leur évolution, leur transformation, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui bouge pas, qu'est-ce qui se renforce, qu'est-ce qui s'actualise, qu'est-ce qui se met en sourdine grâce au travail des CIDFF. Véritablement une approche des socialisations et par les socialisations. Donc ça, c'était pour les outils intellectuels, disons. Concernant les outils méthodologiques, ça suppose évidemment de pouvoir rencontrer les femmes longtemps et à plusieurs reprises. Pour saisir la socialisation, il y a plusieurs temporalités, ce qui est en train de se faire, ce qu'on appelle la dimension synchronique, et la socialisation sur toute la vie, ce qu'on appelle la dimension diachronique, en fait, hein. Et donc, on a vraiment essayé d'articuler les deux. Pour le faire, on est vraiment passé par des récits de vie, hein, des entretiens biographiques, très approfondis, parfois très longs. Des femmes avec lesquelles on a également pratiqué, on s'est immergé. Et donc, on a développé des outils plutôt de tradition ethnographique, hein, des carnets ethnographiques, des carnets de terrain. Et puis, on a essayé aussi d'expérimenter des outils un peu innovants d'un point de vue méthodologique. Donc, on a essayé d'intégrer la sociologie visuelle dans nos entretiens, en faisant verbaliser les femmes à partir de photos qu'elles nous amenaient, mais aussi d'images qu'on proposait. Alors là, ça partait d'un présupposé qu'on a déconstruit, hein, c'était qu'on aurait du mal à les faire verbaliser l'indicible, l'horreur, la violence, les violences. En fait, il se trouve qu'il y avait un vrai désir de libération de la parole et que ça n'a pas été si compliqué que ça pour elles de s'exprimer.
AP Femmes, appropriation de la parole des femmes en difficulté et de leur pouvoir d'agir entre la société civile et la recherche.
Il y a eu toute une phase d'observation au préalable, déjà d'interconnaissance entre l'équipe de sociologues et les professionnels pour représenter un peu le projet. Ils et elles ont participé aux permanences juridiques. Et puis avant chaque entretien, la juriste précisait à la personne qui venait que voilà, il y avait une personne tierce qui était présente et que si elle ne souhaitait pas qu'elle soit présente, il était tout à fait possible que la sociologue ou le sociologue quitte le bureau d'entretien. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas récalcitrante à l'idée qu'une personne tierce participe et observe en fait l'entretien selon la situation, de pouvoir proposer par la suite un entretien biographique, pouvoir avoir un peu une diversité sur les situations rencontrées au sein des permanences juridiques. C'était aussi un travail vraiment de proximité entre les équipes de sociologues et les professionnels. Voilà, c'était vraiment une relation de confiance qui s'est tissée au cours de ces deux ans. Mais c'est vrai que ça a permis d'avoir cette diversité des portraits de femmes et de pouvoir aussi travailler vraiment, on va dire, en collaboration avec les équipes professionnelles des CIDFF.
On a pu étudier quatre dispositifs. Permanence juridique, accompagnement collectif par un module de découverte des métiers, ça s'appelle le MDM, un bureau individuel d'accompagnement vers l'emploi et un dispositif sportif, donc qui se nomme Tout Sport, Tout Sportive. Sur ces quatre dispositifs-là, au total, nous avons déployé 77 observations d'une demi-journée à une journée, ça dépend des dispositifs, ce qui fait à peu près 230 heures d'observation. Et sur ces 230 heures d'observation, on a estimé à peu près 160 bénéficiaires observés en permanence, dans un accompagnement individuel, sur une séance de sport. À côté de ça, concernant les entretiens biographiques, donc les femmes ont été rencontrées une à deux fois. On a produit, en fait, 43 entretiens, 36 avec des femmes bénéficiaires et 7 avec des professionnels des CIDFF. Donc 43 entretiens, 77 journées ou demi-journées d'observation, 160 bénéficiaires observés. Alors ça, ce travail-là, sur plutôt 18 mois, hein, et puis le reste, écriture, écriture, écriture.
Les données récoltées.
Une des premières données, moi j'ai trouvé quand même qui nous avait sauté au visage, c'est qu'on avait beau ne pas rentrer par la porte des violences, c'est-à-dire on rentrait par l'emploi, on rentrait par le droit, quelles que soient les femmes qu'on avait sélectionnées et sur d'autres critères, on s'était entendu à établir des critères liés aux origines sociales, qui est une mixité, puisque toutes les femmes sont touchées par les violences et il s'agissait de déconstruire ce préjugé que ça ne toucherait que les plus fragiles socialement, c'est pas vrai. Donc hétérogénéité sociale, hétérogénéité en termes de tranche d'âge, hétérogénéité raciale, ethnique. On pouvait rentrer par des difficultés liées à l'emploi ou des difficultés liées au droit. Toujours, nos portraits nous ont amenés sur les violences. dimension émotionnelle du travail de recherche a été significative, vraiment. Donc des portraits, des vies difficiles à écrire et à restituer. Donc les violences, elles sont partout. Alors ça, moi j'insiste lourdement parce que il y a une espèce de banalisation dans le discours collectif de ces pseudo-violences, de minimisation. Non, elles sont là, elles sont exponentielles et elles sont brutales. Donc des atrocités, ça c'est un point, c'est sûr. Ensuite, il y a une dimension vraiment qu'on a décidé de creuser, à quel point, mais y compris à leur insu, les professionnels des CIDFF finalement commencent par déconstruire les stéréotypes de genre. C'est pas toujours conscientisé par les femmes, mais en fait, chacun des dispositifs qu'on a étudiés commence par déconstruire les biais de genre hein, ou les stéréotypes de genre dans lesquels ces femmes, et qui sont à l'origine hein, des trajectoires et des situations de ces femmes. Alors prenons l'exemple de plusieurs dispositifs qui consistent en fait par des micro-incitations et par une flexibilité des dispositifs à les amener à repenser ce temps en fait, à prendre conscience qu'elles peuvent en dégager, à infléchir leur organisation familiale finalement. Et on se rend compte là de ces évolutions. C'est merveilleux. Bah ça, moi, c'est une donnée saillante, je trouve. C'est-à-dire qu'elles sont en mesure d'organiser une garde, de créer de la solidarité autour d'elles, de confier leur enfant, de faire confiance, de ne pas trouver ça si grave, finalement, de s'octroyer du temps. Donc, pour résumer, en fait, il m'a semblé dans l'analyse que les dispositifs des CIDFF, ils travaillent moins, par exemple, à l'accès à l'emploi, à l'accès aux droits directement, qu'à ce qu'ils embarrassent avant, c'est-à-dire à l'embarras d'agir de ces femmes. Ce qui suppose quoi ? De prendre du temps avec ces femmes, d'être flexible, de ne pas les presser, de ne pas les oppresser à nouveau, que la dimension temporelle est dans tous les dispositifs, elle nous a semblé importante. Une autre donnée qui est importante, et là les permanences juridiques le montrent bien, et ça ressort aussi, c'est-à-dire c'est pas les CIDFF tout seul dans ces dispositifs qui sortent d'un nœud existentiel qui est parfois terrible dans la vie de ces femmes, c'est vraiment la mise en réseau, c'est-à-dire la possibilité de faire circuler la femme dans une aide qui est conjuguée, qui est collective, de plusieurs acteurs associatifs. S'il fallait tirer comme ça d'autres résultats, je dirais que la spécificité de l'approche, moi je l'ai appelée l'approche bienveillante, mise en place par les CIDFF et qui va avec cette idée du temps flexible, elle est fondamentale parce que toutes les femmes nous disent « je n'ai pas été crue », tout le monde a détourné le regard. L'approche bienveillante qui est mise en place, c'est vraiment quelque chose là qui est transversal à tous les dispositifs et qui suppose, alors prendre du temps, mais pas que en fait. Une manière de dire, une manière d'écouter et on se rend compte que dans tous les dispositifs, la narration de soi est fondamentale. Ce qui aide notamment les femmes à l'autonomisation de soi, c'est-à-dire le « je »,« j'existe ». C'est évident que je passe des tas de choses sous silence, la dimension corporelle notamment, qui consiste à construire, je vais être réductrice, mais un body positive en fait, hein, notamment ces injonctions à la minceur et au fait d'être active. Et là, le dispositif tout sport, tout sportive est hyper utile à cela, puisqu'on voit que en fait, elles nous racontent toutes, alors avec leurs mots, hein, et pas toujours en ces termes, qu'elles ont compris qu'elles étaient capables et qu'être capable, bah, c'est pas relié à leur état. Et donc, dès lors qu'elles sont convaincues de cette capacité, capacitation, bah évidemment, par effet domino, ça leur permet de lever d'autres difficultés. Donc l'entrée par le corps, elle est aussi hyper intéressante. Donc il y a une entrée par le temps, une entrée par la parole, et la nécessité de dire, y compris l'indicible, de se narrer, et une entrée par le corps, qui est heurté, qui est abîmé, qui est empêché. Je passe sur les problématiques de santé, mais évidemment, c'est souvent un effet collatéral de ces trajectoires-là, et qui vient se greffer aux difficultés de toutes ces femmes.
Les éléments saillants de l'étude.
C'est vrai que du côté des CIDFF, ça a permis vraiment d'objectiver aussi, on va dire, encore plus le travail des professionnels. Je leur souligne ici, ce que Gaëlle disait aussi, c'est que c'est même dans le cadre d'une recherche-action, émotionnellement, c'est très dur d'entendre en fait ces portraits et que les professionnels sont confrontés à ça en fait presque tous les jours. C'est-à-dire que l'entrée soit en fait l'accès au droit ou alors l'emploi. C'est vrai qu'in fine, on ne pense pas tout de suite aux violences, mais qu'à un moment ou un autre, presque systématiquement, il y a des faits de violence qui sont avérés. Voilà, et donc c'est vrai que les professionnels font un travail remarquable, c'est-à-dire dans une forme d'écoute active. Et ce qui ressort beaucoup de cette étude, c'est qu'il y a aussi cette libération de la parole parce qu'il y a des professionnels qui sont à l'écoute, non jugeante, et qui permettent d'orienter vers les structures ou les besoins les plus adaptés à la situation de la femme au moment où elle est là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans cette étude, c'est cette écoute bienveillante des professionnels qui doit être reconnue, valorisée à toutes les échelles, tous les jours. C'est des situations par moments violentes et qui nécessitent vraiment, je pense, une reconnaissance. Et ça permet de voir aussi, nous, le travail qu'on mène aussi, on va dire objectivement, de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là, et aussi de voir peut-être certains manquements, certains besoins qu'on n'aurait pas forcément identifiés et qui pourraient permettre par la suite d'y répondre. En lisant cet ouvrage, c'est vraiment à la fois effectivement la prégnance des violences, la dureté de ces récits et aussi le travail incommensurable des professionnels que je salue encore une fois.
Parmi les résultats notamment, il y a toute une construction dans les dispositifs du souvenir collectif sublimé, partagé. Et la place de ce souvenir positif comme quelque chose qui pourrait venir écraser tout ce qui était pas joli dans le passé, douloureux dans le passé, c'est aussi la puissance de certains de ces dispositifs-là. Et les femmes qu'on voit, elles sont joyeuses, elles sont contentes d'être ensemble. Il y a des tas de choses qui se mettent en branle, en fait, dans ces dispositifs-là. Bon, puis aussi, cette espèce de solidarité, hein, certains diront sororité, qui est une jolie donnée.
Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
Évidemment, et c'est parfaitement dans la continuité de ce qu'on vient de dire, mais la violence, hein, des parcours de vie et la douleur de ces femmes.
Gaëlle Sampé, enseignante-chercheuse à l'Université Rennes 2.
Ça interroge vraiment sur notre pratique professionnelle d'ailleurs. C'était dur, tout simplement. C'est dur à lire, a dit Antoine. C'était dur à écrire et à recevoir. Et donc ça suppose aussi toute une maîtrise des techniques de l'entretien, qui n'est pas orthodoxe en fait, parce que là on raconte une intimité telle, et donc on n'en sort pas forcément indemne, mais on sait pourquoi on le fait. Une autre difficulté à laquelle je pense, c'est la période d'installation de l'étude et notre immersion en fait dans ce milieu professionnel, qui est effectivement, vous l'aurez compris, un milieu très sensible, il y a beaucoup d'émotions et où il y a beaucoup de douleurs. Et donc en tant que professionnel, mais là j'ai envie de dire dans tous les milieux, ouvrir la porte voilà, de son bureau où on est en face à face, dans l'intimité d'un récit de vie compliqué, ça va pas de soi en fait de laisser une place à un scientifique, une scientifique qu'on ne connaît pas, dont on connaît pas l'histoire personnelle, dont on connaît pas les pratiques, on sait pas comment il va écrire, qu'est-ce qu'il regarde, et est-ce que je suis jugée en tant que professionnelle. Ça c'est hyper compliqué, parce qu'on l'a vu dans le rapport, leurs pratiques professionnelles sont complexes, parce qu'il y a des balbutiements, parce qu'il y a des nœuds, parce qu'on défait pas comme ça les difficultés de ces femmes et qu'on n'a pas de ficelle, il n'y a pas de recette. C'était compliqué peut-être de les convaincre, de les mettre en confiance, puis de les rassurer sur l'enjeu de cette étude. L'autre difficulté, c'est d'être les plus fidèles possibles au récit des femmes, de ne pas surinterpréter, de ne pas être dans le misérabilisme. Enfin, c'est toute une question pour ajuster sa plume, quoi. Ce sont des femmes courageuses, ce sont des femmes qui se battent. Donc, où est-ce qu'on met le curseur dans l'écriture biographique ? C'est aussi un vrai travail, en fait.
Je suis d'accord avec Gaëlle sur cette question d'intégrer des professionnels qu'on ne connaît pas dans un cadre un peu intimiste.
Antoine Éveillé, coordinateur de la Fédération régionale des CIDFF de Bretagne.
Je pense que c'est pour ça qu'on avait aussi des réunions de copil très régulièrement, enfin des réunions qui permettaient de réunir CIDFF, laboratoire VIPS et puis la FRCIDFF, permettant justement de faire le point sur les difficultés et comment répondre à ces difficultés de manière la plus opérationnelle possible. Donc c'est vrai qu'il y a des axes d'ajustement entre le début initial du projet et la concrétisation. Mais voilà, c'est qu'on travaille sur des choses qui évoluent aussi. Je trouve qu'on a fait aussi preuve d'adaptation face à ces potentielles difficultés. Et voilà, donc en tout cas, je trouve que c'était un travail qui a permis aussi de renforcer la démarche globale des CIDFF en interne et en externe, d'avoir une démarche aussi réflexive sur nos pratiques professionnelles et de travailler aussi avec de nouveaux outils aussi, de nouvelles réflexions, pistes de perspective. Donc en plus de ces difficultés, des belles réalisations aussi.
Quelles ont été les réussites ?
Les difficultés qu'on a évoquées, avec les professionnels notamment, hein, et toute la mise en confiance, pu être dépassées, j'ai pas peur de le dire parce que c'est aussi une recherche engagée. C'est une recherche engagée, en fait, hein, on l'a dit hein, dans la genèse du projet. Ça a pu nous amener à développer aussi des moments de complicité avec les professionnels, de proximité, d'empathie partagée. Voilà, quand elles étaient dans l'embarras, nous aussi on l'était pour elles, pour la femme. Donc des moments, des interstices du travail qui ont été hyper riches humainement. Alors les réussites, elles ont été méthodologiques, puisqu'on a accédé à toutes ces données, les femmes étaient soucieuses de parler, de libérer la parole. C'est une réussite parce qu'on a mené à terme et dans les temps cette étude, donc ça a été une course contre le temps, mais c'est tout à fait satisfaisant. Une réussite parce que la collaboration avec les CIDFF s'est vraiment bien passée. Une réussite enfin parce que faut en parler. Il faut qu'on écrive là-dessus, il faut qu'on continue. Et moi, l'actualité quotidienne me met en colère en permanence. Et donc, il faut aussi que la recherche affiche présente sur ces problématiques-là, que les politiques soient sensibilisées, qu'ils continuent à financer ce genre de recherche et que ce travail soit lu.
Il y avait un point aussi qu'on a un peu abordé, ça a permis de travailler effectivement sur la sensibilisation, on va dire, de l'égalité et aussi d'impliquer des étudiants et étudiantes dans cette recherche-là. Elles et ils ont pu participer à des observations, des entretiens directement sur le terrain. Nous, le réseau des CDFF, ça nous a permis aussi d'intervenir cette année auprès des masterants, masterantes sur la question de l'égalité. Donc voilà, c'est aussi, je veux dire, diffuser une culture de l'égalité au plus grand nombre et de faire, on va dire, des futurs citoyens, citoyennes sur le marché du travail qui soient alertes sur ces questions d'égalité, de pouvoir aussi impliquer l'ensemble professionnel, sociologue, étudiant, étudiante, politique, institution autour d'un projet commun qui vise l'égalité et l'élimination des violences.
Quelles sont les suites pour le projet AP Femmes ?
Nous envisageons plusieurs temps. Il nous semble fondamental, en premier lieu, d'adresser ce rapport aux professionnels qui nous ont accueillis et qui nous ont acceptés au quotidien et qu'on remercie encore une fois, et de pouvoir nous octroyer un temps d'échange sur la réception de ce rapport-là, sur aussi ce que ça génère comme réaction vis-à-vis de leur quotidien, de leur pratique professionnelle. Ensuite, un temps public dans la temporalité des mobilisations du 25 novembre. Donc, la temporalité est parfaitement ajustée au contenu de l'étude. Et puis ensuite, il s'agira évidemment, cet ouvrage, dans la même temporalité, de le rendre à nos bailleurs, à nos financeurs, la région Bretagne, donc pour que les politiques puissent s'en saisir, et enfin de le valoriser scientifiquement à travers un ouvrage scientifique et puis des articles. Notre travail fondamental, disons, commencera à l'issue de la valorisation que je viens d'évoquer. Quant aux perspectives à plus long terme, nous envisageons de redéposer des demandes de financement pour poursuivre ce travail-là, autour notamment de la question de la ruralité, ruralité et sur un autre territoire.
On fait partie d'un réseau, donc 98 CDFF, et donc c'est à peu près 1400 salariés, et puis autant d'administrateurs et administratrices bénévoles. Et donc nous organisons nos assises à Rennes le 10 et 11 septembre, ce qui permettra de s'interroger sur le projet associatif. Et donc seront animés différents temps, des ateliers, des tables rondes pour s'enrichir mutuellement. Et donc notamment un atelier autour de la recherche-action et des résultats apportés dans le cadre de cet ouvrage-là. Et donc c'est aussi de pouvoir partager un peu ces résultats au sein de notre réseau, en s'appuyant sur notre fédération nationale. Et puis nous, au niveau des réseaux CDFF, c'est pouvoir vraiment proposer des réponses qui soient le plus adaptées aux besoins des femmes qui sont identifiées dans ces ouvrages. Donc voilà, c'est vrai que ça nous permet aussi de pouvoir apporter des réponses les plus adaptées aux réalités territoriales et aux réalités des femmes qui sont informées et accompagnées individuellement et collectivement par les CDFF de Bretagne. Le 21 novembre, on avait participé à un mardi de l'égalité pour présenter des portraits de femmes dans les différents dispositifs, donc qui avaient permis de présenter justement des actions tout sport, MDM, etc. La réalité de ces femmes, et donc c'est diffusé sur l'UR de l'Université Rennes 2, donc accessible en replay et qui permet justement de découvrir les portraits de ces différentes femmes anonymisées.
Quels enseignements avez-vous tiré de cette expérience ?
On va dire d'un point de vue académique, pour moi cette recherche elle est juste évidente en fait. Elle est le reflet de mes sensibilités intellectuelles, citoyennes. Elle est aussi le reflet d'une histoire. Elle était une manière et elle est toujours de m'engager à ma manière, de placer ma colère à un endroit et d'en faire quelque chose, tout en conservant une posture scientifique, académique, très réfléchie au plan intellectuel et au plan méthodologique. Mais cette colère, en fait, elle dégrossit pas. Parce que parmi les résultats qu'on n'a pas évoqués, notamment, il y a ce sentiment d'impuissance de toutes les femmes vis-à-vis d'un organe judiciaire qui est complètement insatisfaisant, qui génère lui-même des violences, et on marche sur la tête, en fait. Mais effectivement, cette recherche, elle est venue appuyer là où ça faisait déjà mal. Et elle montre que ce sont des problématiques que je dois continuer à investiguer, qu'il ne faut rien lâcher et que je dois le faire du mieux que je peux en continuant à me former, bien évidemment, en me sentant très souvent toute petite vis-à-vis de toutes ces histoires et de tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est aussi ambivalent. C'est-à-dire, il y a un sentiment de satisfaction d'être allée à l'endroit où il fallait que je m'investisse, et en même temps de constater que ça s'arrange pas, quoi.
Moi, je suis quand même à une fonction, on va dire, à l'interstice entre les professionnels, les institutions et des fois, parfois, éloigné du terrain. Je suis pas travailleur social, je suis pas juriste, je suis pas conseiller emploi. Donc, c'est vrai que des fois, on met en place des actions qui répondent aux besoins qui sont identifiés par les professionnels, mais on n'a pas forcément le retour des femmes. Et donc, moi, j'avoue que j'ai quand même découvert vraiment aussi tout ce que font les professionnels pour accompagner ces femmes. Mais là, vraiment, d'avoir le retour et la parole de ces femmes, de dire, qu'est-ce que ça a apporté, les CDFF, qu'est-ce que ce projet régional permet à ces femmes, je trouve que ça davantage de sens à ma pratique professionnelle. Et puis même en tant que, on va dire, citoyen, ça me permet d'avoir vraiment des arguments, on va dire, pour lutter contre des discours antiféministes, masculinistes, qui minimisent aussi les violences en remettant les violences sous le prisme uniquement des violences physiques, et de se dire en fait non, ça s'inscrit vraiment dans un continuum de violence, je veux dire, ces paroles et ces portraits pour appuyer en fait ce qu'on dit depuis des années, qui est entendu un peu aujourd'hui, mais pas assez, et qui nécessite vraiment un portage politique et institutionnel qui soit le plus fort, avec aussi des moyens qui soient alloués aux associations, à la justice, à l'éducation, à la prévention, et tout ça, ça doit être de manière, on va dire, synchrone et asynchrone, pour les reprendre la terminologie. Et voilà, je pense que c'est vraiment qu'un début pour dire que font les CDFF, que font aussi d'autres associations, hein, parce qu'il n'y a pas que les CDFF, et ben en fait, il faut aussi pour ça avoir des moyens. C'est vrai qu'aussi, à la lecture de ce rapport, c'est très dur, mais il y a aussi des choses très positives qui en ressortent, je veux dire, des victoires aussi personnelles pour certaines femmes, pour certaines professionnelles. Voilà, c'est vrai que c'est un portrait triste par moment, mais aussi très joyeux par d'autres, et donc ça permet justement de montrer toute la diversité et la richesse de cette recherche-action.
Un grand merci à Antoine Éveillé, coordinateur de la Fédération régionale des CIDFF de Bretagne, et à Gaëlle Sampé, enseignante-chercheuse à l'Université Rennes 2, pour leur participation à ce reportage dédié au projet AP Femmes.
Ce reportage a été produit et réalisé par la CorLab avec le soutien de la région Bretagne. Pour plus d'informations sur le projet que vous venez d'entendre et pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur corlab.org.